Eh bien, on l'a vu au cours des dernières semaines, les changements climatiques, ou en fait les extrêmes climatiques, sont assez importants. Le Québec a connu son mois de juillet le plus froid depuis 1976, pendant que dans l'Ouest, ben c'est le contraire, ça brûle et on bat des records de chaleur. Il y a eu des inondations en Europe, notamment en Belgique, en Allemagne également. Est-ce que ces phénomènes extrêmes sont dus au hasard? Est-ce que c'est cyclique dans le temps ou est-ce que c'est une véritable conséquence des changements climatiques? On va poser la question à Claude Villeneuve, qui est biologiste, auteur et professeur titulaire au département des sciences fondamentales de l'Université du Québec à Chicoutimi. Bonjour, Monsieur Villeneuve.
Bonjour.
Alors, quand vous voyez ces extrêmes-là, qu'on voit là de façon assez importante en termes de température, en termes aussi d'événements climatiques là, qui sont de plus en plus fréquents. Et c'est un signe qui est là pour rester. Hein. Ça va rester, ces changements-là.
En fait, ça fait plus de 20 ans que si les modèles nous prédisent des choses comme ça. En fait, l'événement climatique en tant que tel est difficilement reliable, okay, les événements climatiques ont des probabilités non nulles de se produire. L'exemple de la vague de chaleur qui est dans l'Ouest, la probabilité que ça se produise, c'est peut-être une fois dans 1000 ans, mais peut-être que ça s'est jamais produit non plus. Alors, dans les faits, les modèles nous montrent qu'avec l'augmentation de l'énergie, à la fois dans l'océan et dans l'atmosphère, on se trouve à modifier les conditions qui déterminent le climat. Modifier ces conditions-là, ça veut dire qu'on augmente la probabilité d'extrêmes, en particulier au niveau des précipitations et en particulier au niveau des vagues de chaleur, ouais. des redoux hivernaux, des choses comme ça, qui, finalement, auxquels on n'est pas adapté. Et dans les faits, depuis 20 ans, avec entre autres Ouranos, on a beaucoup travaillé sur la recherche pour l'adaptation au changement climatique parce que il est trop tard jusqu'à un certain point pour faire marche arrière. Ça va prendre jusqu'à la fin du siècle avant qu'on puisse espérer rétablir un climat qui a une apparence normale.
OK, parce que vous pensez que c'est réversible. Si tout le monde mettait les efforts nécessaires, ça pourrait être réversible?
C'est du moins ce que nous montrent les rapports qui ont été publiés avec les modélisations, mais je vous dis tout de suite que c'est loin d'être fait, là. Et puis, il y a des choses qui sont irréversibles, par exemple l'augmentation du niveau des océans à cause de la
fonte des glaciers.
Non, pas tellement de la fonte des glaces, c'est surtout que l'océan réagit lentement. Il y a une forte capacité à stocker de l'énergie et comme il réagit lentement, il monte lentement, mais on ne sera pas capable de stabiliser l'augmentation du niveau des océans qu'on a déjà engendré avant 400 ou 500 ans.
Bon, essayez donc, je ne sais pas si c'est possible de le faire simplement, là, mais nous expliquer... c'est quoi ces transferts d'énergie-là? Ça vient d'où? On parle beaucoup des gaz à effet de serre, mais qu'est-ce qui se passe pour expliquer simplement nous l'imager simplement?
C'est très simple. C'est la même chose que si vous installez des couvertures sur un lit. Alors, vous êtes dans une chambre, mettons qui est à 15 degrés, vous installez des couvertures sur votre lit, ben c'est toujours votre corps qui produit la chaleur. Donc, la chaleur est produite par le rayonnement solaire qui est absorbé par les corps colorés et par les océans.
Ouais.
Et la chaleur, en fait, elle ne s'évacue plus. Donc, plus vous mettez des couvertures, puis plus vous allez avoir chaud. Okay? Parce que votre température intérieure est à 37 degrés, puis la température que vous préférez est à peu près à 25 degrés. Donc, si vous avez plus d'isolant, vous allez plus avoir de la difficulté à perdre votre chaleur et de ce fait, vous allez être inconfortable. Dans le cas de la planète, ben, c'est pas une question de confort, c'est une question de stockage d'énergie dans les océans, ce qui fait que les ouragans sont plus fréquents, plus violents, les précipitations sont beaucoup plus violentes parce que dans un nuage, vous mettez une certaine quantité d'eau, mais qui est fonction de la température.
Ouais.
Alors, plus c'est chaud, plus vous pouvez mettre d'eau. Puis si ça précipite tout d'un coup, ben vous avez les inondations qu'on voit. Même chose en ce qui concerne des blocages de certains systèmes, comme la vague de chaleur dans l'Ouest, où vous avez une accumulation de chaleur qui ne s'évacue pas parce qu'il y a une circulation qui le maintient en place.
Bon. Là, évidemment, les climato-sceptiques écrivent, se déchaînent. Là, j'ai reçu plein de courriels.
Alors
là,
c'est une rigolade, ça, parce qu'en fait, on est dans un monde où, à part dans les réseaux sociaux et quelques indécrottables, il n'y a plus personne qui peut se permettre d'être climato-sceptique.
Bon, là, on dit les écarts de température qui arrivent aux 5, 10, 15, 20 ans ne sont pas des changements climatiques. Donc, il y a un auditeur qui nous dit ça. Donc, ce que vous dites, c'est pas vrai. Puis, il y en a un autre qui m'écrivait tantôt que comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a un réchauffement planétaire alors qu'on a connu le mois de juillet le plus froid depuis 1976?
C'est tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est le climat. Le climat, ce sont des moyennes sur de longues périodes de temps. Normalement, l'unité climatique, c'est 30 ans. Donc, les variations qui viennent dans un mois ne veulent absolument rien dire. Les variations qui viennent dans une semaine ne veulent absolument rien dire. Et comme je vous disais tout à l'heure, le phénomène que vous observez, il ne peut pas être directement relié avec les changements climatiques, mais sa fréquence peut être liée. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura pas une pluie de grenouilles près de chez vous. C'est pas statistiquement impossible. C'est infiniment peu probable, mais c'est pas statistiquement impossible. Ouais. Même chose avec ce qui se passe dans l'Ouest, c'est qu'on dit il va y avoir une récurrence maintenant, au lieu d'une probabilité d'une fois par 1000 ans, il va y avoir une récurrence qui va se passer peut-être plus aux 5 à 10 ans, ce qui est dramatique dans le sens où qu'est-ce qu'on fait avec la foresterie? Si on a des feux de forêt comme ça qui se reproduisent aux 5 à 10 ans, il va y avoir une modification importante de la composition des écosystèmes.
Je veux juste terminer avec, parce que vous disiez tout à l'heure que bon, il y a théoriquement une possibilité que d'ici la fin du siècle, on pourrait éventuellement inverser la tendance. Mais il faudrait
ce que les modèles nous disent.
Mais il faudrait changer nos habitudes de vie. Puis je voyais l'autre jour, en fait, il y avait un rapport, je pense que c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, qui disait que malgré tous les efforts qui sont faits dans le monde pour réduire les GES sont toujours en constante augmentation.
Bien, en fait, on a eu une baisse de 5% avec la COVID l'année passée. Donc, votre informateur n'est pas tout à fait bien informé. Mais cette baisse-là, on pense qu'elle est temporaire parce qu'en effet, il n'y a pas personne qui a vendu sa voiture ou qui a changé sa voiture pour une bicyclette à cause de la COVID. Là.
Ouais.
Alors, dans les faits, il est probable que après la COVID, les augmentations d'émissions vont continuer. Au Québec, ça fait une trentaine d'années qu'on a des cibles, on les a jamais atteintes. Au Canada, c'est pareil, on a des cibles, on les a jamais atteintes. Là, nos gouvernements nous promettent d'avoir une action musclée. L'ensemble des gouvernements dans le monde promettent ça, mais moi, j'ai plus ou moins confiance au gouvernement. J'ai plus peut-être confiance au fait que depuis le début de l'année, puis même l'année passée, il y a des très grandes entreprises qui ont pris des engagements et qui ont pris des mesures pour être capables de mettre à zéro leurs émissions pour l'horizon 2050. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Monsieur Villeneuve, merci d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir.
Au revoir. Claude Villeneuve est biologiste. Il est auteur et professeur titulaire au département des sciences fondamentales à l'Université du Québec à Chicoutimi. On va aller à la circulation avec Guylaine.